On va commencer. Donc merci à tout le monde d'être là. Pour l'intendance, vu qu'on a la plénière qui commence à 11h et que c'est très vexant pour un intervenant de voir sa salle se vider d'un coup pour aller dans la salle d'à côté, je vais raccourcir un peu le sujet. Je vais essayer de le faire tenir dans la demi-heure. Après, bien sûr, s'il y a des questions, s'il y a des gens qui veulent discuter, approfondir un peu, je suis là, hein, donc ce sera avec plaisir, mais... Voilà, pour éviter le mouvement de masse ou que les gens soient gênés de devoir s'échapper compte tenu des sommités avec lesquelles on va partager un peu l'emploi du temps. Donc le sujet que je voulais partager avec vous, c'est l'actimétrie. L'année dernière, le groupe Legrand avait fait une intervention sur un autre sujet qui était celui des packs domotiques à domicile et on avait fait une intervention à deux voix avec un de nos partenaires qui est la Fondation des Caisses d'Épargne, avec lequel on développe beaucoup en Limousin des solutions de PAC domotique à domicile. Là, on est sur un autre sujet, qui quand même est en lien avec le premier, qui est plus prospectif, en tout cas pour le domicile. C'est comment essayer, à partir de capteurs, alors des capteurs qui ont d'abord une vocation d'utilité en local, et on va voir lesquels, je vais vous donner des exemples. Comment, à partir de ces capteurs, on va essayer d'analyser des données, hein, on parle beaucoup d'analyse de données aujourd'hui et de récupération de données, et comment, avec ces données, on va pouvoir tirer un certain nombre d'informations sur l'activité de vie de la personne. Là, on va voir un exemple en établissement, je vais m'appuyer sur celui-là avec quelque chose de très simple pour que tout le monde puisse bien appréhender le sujet. Donc l'exemple que je vais prendre, je vais partir d'une solution qui existe déjà, alors qu'on déploie dans des milliers de domiciles aujourd'hui à travers ce qui s'appelle le parcours lumineux, donc vous en avez probablement entendu parler, qui est une solution qui permet à partir de détecteurs de mouvement d'éclairer le parcours entre le lit et les toilettes. Alors ça a du sens évidemment à domicile, dans les expérimentations et les déploiements qu'on a pu faire aujourd'hui, on réduit à peu près de 40% le risque de chute nocturne avec ce dispositif, tout simplement en éclairant le parcours, que les personnes puissent facilement repérer les obstacles, se faire leur repère d'équilibre. C'est extrêmement simple comme solution. On travaille avec des produits existants, c'est des détecteurs de mouvement, et donc on va piloter l'éclairage. L'idée l'actimétrie, c'est de récupérer finalement l'activité de ces détecteurs, tout simplement, dont, encore une fois, la vocation première est de sécuriser ces chutes nocturnes et d'allumer la lumière en local, mais on va capter l'information et la récupération de ces données pour déterminer l'activité nocturne du résident, notamment là, dans un EHPAD. À travers ces capteurs, donc on va trianguler avec trois capteurs, hein, je les ai mis en vert ici, donc ces trois capteurs vont permettre de déterminer, par exemple, si c'est le premier du bas qui déclenche, qu'il s'agit d'un externe qui rentre dans la chambre, un personnel qui va passer voir si tout va bien. Si c'est le capteur au pied du lit qui déclenche en premier, c'est le résident qui se lève. Hein, donc on arrive aussi, par analyse du capteur activé, à faire la différence sur une intervention du personnel et sur quelque chose qui est lié au résident lui-même et à son lever, par exemple. On peut tracer le temps qu'il reste debout dans sa chambre, on peut tracer s'il va aux toilettes, dans l'espace sanitaire, combien de temps il y reste. Et en fait, tout simplement, on va récupérer ça et on va le mettre en forme, nous, dans un outil de présentation pour les équipes encadrantes de l'établissement. Et le matin, en arrivant, les personnes pourront voir quelle a été, chambre par chambre, l'activité nocturne du résident. On peut après, et je vais vous le montrer sur la slide suivante, présenter, là on a l'exemple d'une chambre, on le reverra dans la vidéo, on a tourné un film en Creuse dans un EHPAD qui utilise le dispositif, où les médecins expliquent un peu l'usage qu'ils font de l'outil. Mais là on voit typiquement l'activité nocturne d'un patient, donc on voit les jours et les heures, et on voit par exemple ici, en vert les passages à la salle de bain, et en rouge les lumières qui sont activés à partir du lit. Et on voit par exemple que cette personne, ben le 23, elle a une première partie de nuit plutôt calme, une deuxième partie de nuit très calme, que par contre le lendemain, il y a un problème qui s'est produit, puisque la personne n'a quasiment pas dormi de la nuit, entre le moment où elle était active dans sa chambre et le moment où elle était active dans les toilettes. Donc cette information-là, on voit bien qu'elle est extrêmement basique à récupérer. À partir du moment où on a mis un parcours lumineux pour sécuriser les levées nocturnes, il suffit de récupérer les données, de les mettre en forme et de les proposer aux équipes. C'est très instructif pour le personnel, pour les médecins. Après, on peut les présenter aussi de cette manière. Donc c'est une mise à disposition d'états de synthèse où vous avez les chambres qui sont proposées en partant de la chambre où il y a eu le plus d'activité vers celle qui a été la plus calme. Donc tout de suite, le personnel le matin, les équipes, en ouvrant l'application, repèrent tout de suite la personne qui a eu la nuit la plus agitée. On peut tracer le temps passé aussi. Donc vous voyez le nombre de déclenchements et vous voyez en minutes le temps passé. Donc la personne de la chambre 119, alors elle a eu le plus d'activité, mais pas forcément le plus longtemps. Donc 65 minutes, vous voyez la chambre 110, 117 minutes debout entre la chambre et les toilettes dans la nuit. Donc on voit que cette personne-là, il y a probablement un problème, et du coup on va cliquer sur la chambre pour aller regarder le détail de ce qui s'est passé et les tranches horaires. Donc le principe, c'est d'en recueillir des informations sur la qualité du sommeil. On verra que c'est pas complet, c'est pas suffisant. Je vous montrerai une petite prospective après, je vous dirai quelques mots de ce que nous développons aujourd'hui, sans aller trop loin non plus, parce que c'est quand même des choses qui restent encore au stade de la recherche, du développement et de l'expérimentation, donc elles sont pas forcément complètement finalisées. Mais pour la qualité du sommeil, c'est une première donnée. C'est la personne se lève, la personne passe son temps à se lever, se coucher, aller aux toilettes, etc. On verra qu'après, avec des nouveaux capteurs, on peut compléter cette information par une autre information, par un autre capteur qui, lui, va conforter le diagnostic ou l'évaluation qu'on va faire du problème. Donc on fait plutôt avec celui-là de l'évolution, du suivi d'évolution de comportement, aide à la décision, ajustement de traitement, parce que clairement, si on voyait la chambre de tout à l'heure, ce qui s'est passé entre le jour 1 et le jour 2, probablement qu'il y a eu un changement dans un traitement, peut-être qu'on a essayé d'alléger un somnifère, et on voit que tout de suite, le lendemain, ça s'est pas bien passé et qu'il va falloir corriger le tir. Ça permet aussi de faire des visites plus ciblées, une forme d'individualisation du suivi, puisqu'on va être beaucoup plus en connaissance des personnes qui ont besoin d'aide. On parlait aussi tout bêtement, le matin, quand on est dans une logique, par exemple, de nettoyage des chambres, c'est toujours mieux de commencer par les chambres qui ont eu la plus grande agitation nocturne, plutôt que de commencer par un bout du couloir et de finir à l'autre bout, sans prendre ça en compte. C'est pareil, aujourd'hui, c'est un exemple extrêmement basique, mais quand on distribue les petits déjeuners dans un établissement, et pas seulement dans un EHPAD, mais c'est vrai aussi dans une clinique, on prend un bout du couloir, on termine par l'autre bout, il peut se produire une demi-heure, trois quarts d'heure entre les deux. Là, on peut avoir l'information très simple des gens qui sont réveillés depuis le plus longtemps, ceux qui sont encore en train de dormir, et du coup, peut-être cibler un peu mieux le passage dans les chambres en fonction, celui qui est réveillé depuis 2 heures, on va peut-être lui amener son petit-déj en premier, et même s'il est au bout du couloir. C'est des idées, tout ça, évidemment. Nous, on n'est pas là pour faire le service ou adapter l'organisation, on est là pour dire, avec des capteurs assez simples et des solutions relativement économiques, on peut mettre à disposition des données. Après, c'est aux organisations d'imaginer un peu ce qu'on peut en ressortir, et vous verrez quelques exemples dans la vidéo. Donc je vais vous lancer le petit film.
La résidence Anna Quinco est l'établissement dédié aux personnes âgées de référence du centre hospitalier de Guéret. La résidence a une capacité de 225 lits pour une prise en charge diversifiée et adaptée aux différents besoins. Elle compte 160 lits d'EHPAD, 50 lits de soins de longue durée et 15 lits de SSR gériatrique. C'est un établissement neuf qui a été ouvert et inauguré en juin 2013. La résidence Anna Quinco est un établissement qui est baigné de nature et de lumière et qui offre un cadre de vie à la fois confortable, sécurisé et surtout équipé des toutes dernières technologies. C'est le fruit d'une longue réflexion et d'un long travail qui a été mené par les professionnels paramédicaux et médicaux auxquels ont été associés des résidents et des familles. Alors l'intérêt de ce qu'on appelle les solutions innovantes ou les nouvelles technologies, c'est qu'elles soient au service de ce projet, parce qu'elles permettent d'adapter le cadre de vie aux besoins nouveaux des résidents. Chaque chambre est équipée de ce qu'on appelle un parcours lumineux, depuis le lit jusqu'au sanitaire, qui se déclenche dès que le résident se lève et donc qui participe à la limitation des risques et notamment à la limitation du risque de chute. Autre exemple, la résidence Anakinko a la particularité d'être équipée dans ses 225 chambres du système d'actimétrie. C'est un système qui permet d'avoir des données qui nous remontent l'activité des résidents dans leur chambre et dans les salles de bain de manière tout à fait neutre et fiable et qui permettent d'avoir des éléments très intéressants, par exemple sur la qualité du sommeil, ce qui permet un meilleur suivi, une meilleure réactivité de l'équipe.
On avait déjà une pratique de l'actimétrie, puisque dans l'établissement on pratiquait l'actimétrie du poignet, par exemple, mais disons que c'était un petit peu limité, et nous avons souhaité essayer d'étendre ça à une actimétrie, étude du mouvement de la personne plus globale. Voilà, donc ici nous sommes devant le suivi actimétrie d'un résident qui présente effectivement des nuits relativement agitées, des premières parties de nuit relativement agitées. On voit que de 21h jusqu'à 1h du matin, il y a de nombreux levées, de nombreux passages par la salle de bain. Donc tout ça c'est quelque chose d'important pour nous médecins, de savoir exactement le comportement nocturne de la personne.
Aujourd'hui, en France, c'est près de 7000 EHPAD publics, privés, associatifs, près de 800 000 résidents accueillis. Cette population âgée, très âgée, est pour la plupart polypathologique, polymédicamentée, et pour les deux tiers environ, avec des pathologies neurodégénératives. Le problème, ou du moins la problématique de la surveillance de nuit, est un réel enjeu pour ces établissements. D'où l'intérêt de rechercher des techniques, des organisations pour donner un maximum de qualité, un maximum de sécurité pour la période nocturne. L'institution va pouvoir permettre donc au niveau de sa présentation des prestations, une prestation de qualité, une prestation sécurisée et qui sera un plus par rapport à l'image que peut donner la maison de retraite, l'EHPAD, aux différentes populations et aux futurs usagers. Enfin, sur le volet économique, le parcours lumineux, c'est 4-5 € complémentaires par mois et par résident. C'est une somme, c'est un coût. On peut-être envisager pour le futur que les forfaits, le forfait soins, le tarif dépendance puissent participer à cette prise en charge pour que ce ne soit pas uniquement le tarif hébergement qui soit impacté par ce dispositif.
Avec le nouveau système que l'on développe actuellement, on va pouvoir reconstituer l'activité journalière des patients, donc être capable de déterminer si les gens font leur toilette, s'habillent, se déplacent, rentrent, sortent. Donc on aura le profil un petit peu des gens. Et ces systèmes, jusqu'à maintenant, sont développés surtout pour aider à la supervision des résidents en EHPAD. Mais on peut tout à fait imaginer, et plus qu'imaginer, on travaille à déplacer maintenant ce type de système sur les domiciles privés des gens, dans le but de constituer vraiment un habitat intelligent qui va à la fois prendre soin et sécuriser le résident, tout en donnant des informations aux renseignants sur l'activité journalière.
Voilà, donc c'était pour un petit peu illustrer ce qui se fait aujourd'hui en établissement. Pour parler un peu de prospective, vous avez vu l'intervention du professeur Davier là, sur la dernière partie du film. Aujourd'hui, on a un projet qui s'appelle e-monitorage, qui est un projet collaboratif, qui est en cours, qui a déjà un peu plus d'un an d'existence. Donc il commence aujourd'hui à sortir ses premiers résultats. On a des capteurs déjà opérationnels. Il y aura la semaine prochaine un événement presse à Limoges pour justement faire un point avec les financeurs et présenter ces capteurs en démonstration. Donc en complément de ce qu'on vient de voir, hein, qui était vraiment encore une fois quelque chose de relativement simple et de récupérer des données de capteurs en place pour faire de la prévention de chute. Là, on va aller vers des capteurs, toujours des capteurs qui sont non portés. Nous, on est plutôt sur cette logique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des capteurs portés. Nous, on est plus sur des capteurs qui sont attachés au bâti, parce que d'abord, c'est plus dans nos gènes du bâtiment, mais on pense aussi que le capteur attaché au bâti est quand même dans une situation de moindre risque technologique qu'un capteur porté, qui peut prendre des coups, qui peut prendre des chocs, qui peut présenter un certain nombre d'inconvénients. Donc on est plutôt parti, nous, sur des capteurs portés, si possible, quand on le peut, des capteurs alimentés, ce qui évite d'avoir à remplacer des batteries, mais ce n'est pas toujours évident. Donc premier capteur, c'est le capteur de respiration. On peut imaginer aussi que ces capteurs-là, pour certains, soient regroupés dans un seul boîtier. La miniaturisation des composants fait qu'aujourd'hui, on n'aura pas un capteur physique pour chacune des fonctions. On peut imaginer qu'un capteur de mouvement peut embarquer une ou deux fonctions complémentaires. Dans un capteur de mouvement, par exemple, aujourd'hui, on peut facilement embarquer une sonde de température. C'est extrêmement miniaturisé et récupérer de la même manière la température de la chambre dans le même flux d'informations qu'on le fait d'un capteur de mouvement. Okay ? Donc le capteur de respiration, lui, il est basé sur une logique de capteur de son et on va analyser un rythme respiratoire. Alors ça, pour la qualité du sommeil, ça vient bien compléter le premier dispositif qui, lui, est plus sur l'agitation, on va dire, nocturne ou l'activité. Mais la personne peut très bien être dans son lit et ne pas dormir, ou mal dormir, ou avoir des apnées du sommeil, ou des choses comme ça. Et là, on va travailler avec ce capteur de respiration pour analyser des rythmes respiratoires. C'est normal, c'est rapide, il y a des apnées, il y a des détresses respiratoires. On va pouvoir le faire sans avoir forcément, évidemment, à faire des passages fréquents dans la chambre pour voir ce qui se passe. Et donc ne pas déranger le résident, etc. Le capteur de vision, alors c'est une technologie un peu différente qui est plus à vocation des parties communes des établissements et qui va travailler à partir... Alors, c'est pas de l'analyse d'image en tant que telle, donc c'est pas de la caméra, mais on est dans la même logique de technologie, c'est-à-dire qu'on va analyser des images, mais sans qu'elles soient filmées et sans qu'elles puissent être regardées en tant qu'image. Et on va déterminer, par exemple... la démarche d'une personne, on va déterminer son visage et on va pouvoir avec ça sécuriser des déplacements dans les établissements. Autoriser la sortie d'un espace par du contrôle d'accès, autoriser par exemple une personne ou pas à prendre un ascenseur. Et là on va plutôt travailler sur l'errance, plutôt dans des logiques d'établissements à vocation plutôt maladies cognitives, tout ce qui va être fugue aussi, comment je fais pour... empêcher que certaines personnes sortent sans pour ça transformer mon établissement en Fornox avec des sas multiples, etc. Aujourd'hui, on peut déterminer qu'une personne est autorisée à ouvrir les portes et que les portes s'ouvrent et que pour une autre personne, les portes restent fermées. Les capteurs large bande, ça c'est une autre technologie. Ce sont des capteurs qui ont la particularité de voir à travers les cloisons. C'est un peu les passe-murailles. On voit à travers les cloisons et le mobilier, parce que ça, c'est un problème pour les capteurs qu'on a vus en premier tout à l'heure, les capteurs de mouvement plutôt sur base de technologie infrarouge. Ils ne voient pas à travers le mobilier ou les cloisons. Là, avec cela, par triangulation, on va pouvoir surveiller des espaces beaucoup plus vastes, par exemple un groupe de chambres avec un couloir, et on va pouvoir aussi identifier des situations, par exemple, d'une personne qui gît au sol. Un capteur de mouvement, lui, il capte, ça bouge pas. Éventuellement, en combinant des capteurs de mouvement en hauteur et au sol, on peut déterminer si la personne est debout ou couchée. Mais avec le capteur large bande, on est beaucoup plus fin sur à travers les cloisons, à travers le mobilier, pour déterminer qu'une personne se déplace, qu'elle est immobile, qu'elle est dans son fauteuil ou qu'elle est couchée par terre et qu'elle est tombée. Et d'autres capteurs, alors je ne peux pas vous en parler aujourd'hui, mais... Aujourd'hui, dans les labos de recherche, dans tous les pôles de compétitivité, le capteur, c'est vraiment l'objet, on ne va pas dire à la mode, parce qu'il y a déjà un moment que c'est parti, mais c'est vraiment beaucoup d'espoir sur cette technologie des capteurs, de par tout ce qu'ils sauront faire demain, leur miniaturisation, le fait aussi qu'on va les retrouver embarqués dans plein de choses de la vie courante, dans les voitures. Aujourd'hui, vous avez de multiples capteurs dans l'automobile que vous ne connaissez pas forcément parce qu'ils ne sont pas visibles. Mais tout ça, c'est aussi de la massification sur des technos et ça va faire baisser les prix. Et ça permettra demain plus facilement de les déployer. Juste pour faire le prolongement aussi, et le professeur Davier en parlait, là, on est dans les établissements parce que les établissements, pour mettre ces technologies au point, c'est plus simple parce qu'on est sur des chambres plus standardisées. On travaille en local, c'est-à-dire que souvent on a le personnel sur place, donc on a la réaction immédiate et l'analyse qui est sur place. Mais on voit bien que l'enjeu de demain, c'est le domicile. C'est comment cette technologie de l'établissement et cette actimétrie notamment, je vais pouvoir la récupérer d'un domicile sur un plateau de service, alors multiservice, plutôt de téléassistance, plutôt un plateau médicalisé, peu importe. Encore une fois, nous, l'idée, c'est d'amener des données sur une plateforme et après que les acteurs qui sont intéressés par ces données bah, les utilisent. Par exemple, encore une fois, en restant assez simple et assez basique sur la vigilance et les rythmes de vie, bah, un capteur de mouvement, effectivement, il est là pour capter des mouvements, mais s'il n'en capte pas, ça peut déterminer qu'il y a un problème. Donc c'est toujours le même capteur. Quand il se déclenche, on allume la lumière. Quand il se déclenche, on historise la donnée pour dire la personne a bougé. Mais si, dans une période donnée, on constate qu'il ne s'est pas déclenché, c'est aussi une information. Donc le non-déclenchement a aussi une interprétation. Et par exemple, là, ça peut être plus spécifiquement une donnée d'alerte. Ça peut être un complément, par exemple, dans une analyse de chute, pour se dire qu'il n'y a plus d'activité ou la personne n'est pas sortie de sa chambre le matin à 9h, il y a un problème. On peut... En parallèle, par exemple, tracer les sorties du domicile sans retour. Le soir, par exemple, une personne à domicile qui est seule, on peut être intéressé de se dire, par exemple, si la personne sort à 21h et qu'à 21h30, elle n'est pas re-rentrée, il y a un problème et on déclenche une alerte. Et ça, il faut deux capteurs très basiques pour le faire. Il faut un capteur de mouvement dans l'entrée et un capteur d'ouverture sur la porte. Voilà. Quand on est sur le mouvement en premier, la porte en deuxième, on sort. Et quand c'est la porte en premier et le mouvement en deuxième, c'est qu'on rentre. Voilà, c'est extrêmement simple, c'est tout à fait basique, mais en combinant deux capteurs très largement diffusés aujourd'hui dans tous les systèmes d'alarme intrusion, par exemple, qui servent à savoir si des cambrioleurs sont rentrés chez vous, bah avec ces deux capteurs-là, en récupérant les données avec un mini-algorithme extrêmement basique, une plage horaire de surveillance, on peut lancer des alertes sur des personnes qui sont sorties de chez elles pour prendre un peu l'air le soir et qui sont tombées devant la maison et qui ne sont pas revenues. Il y a des cas assez concrets d'accidents bêtes comme ça, de gens qui étaient seuls et qu'on a retrouvé le matin devant chez eux sans secours et qui étaient restés au sol toute la nuit. Bon, l'activité nocturne, on en a parlé. Tout bêtement, l'utilisation d'un réfrigérateur, j'ai ouvert ou pas, si depuis 12 ou 24 heures le réfrigérateur n'a pas été ouvert, ben, il y a un problème. C'est que la personne, soit elle gît dans un coin de la maison, soit elle ne s'alimente pas. Encore une fois, le capteur seul peut donner une information, mais la combinaison de plusieurs capteurs ou de l'information de plusieurs capteurs, ça peut être très intéressant pour déterminer des informations, lancer des alertes ou alors déterminer qu'il y a un rythme de vie qui se décale et qui se dégrade. Est-ce qu'il y a des questions ? Ou pour ceux qui veulent les poser dans un cercle plus privé, je reste là. Donc,
Vous avez parlé de toutes les fonctionnalités qui sont possibles aujourd'hui. On a assez peu parlé de vie privée, même si c'est sous-entendu. En termes justement de vie privée, de sécurité des données, comment ça se passe ? Qui a accès à ces données ? Et où est la frontière entre l'exploitation des données par le personnel médical ou par le personnel aidant, et puis le souhait de la personne de ne pas se vouloir espionner dans sa vie de tous les jours ?
Bon, donc je vois que l'éthique arrive au galop, c'est normal. Effectivement, alors, d'abord, c'est un peu différent selon qu'on soit en établissement ou au domicile. Si on parle du domicile aujourd'hui, évidemment que l'exploitation ou l'usage de ces données ne se fera pas sans un consentement éclairé des personnes, que ce soit les personnes, si elles en sont capables, ou de leur entourage. Encore une fois, je pense que l'objectif n'est pas de surveiller la personne et d'être intrusif dans sa vie privée. C'est simplement d'être capable de mieux d'être bienveillant par rapport à elle, de pouvoir la secourir dans l'urgence s'il se passe quelque chose. Donc aujourd'hui, je peux prendre un exemple qu'on connaît assez bien, qui est celui de la téléassistance, dans lequel on a déjà un certain nombre d'informations sur la personne et sur ce qu'elle fait dans son domicile. Je veux dire, les gens sont demandeurs de ces solutions-là. Parce que je pense qu'il faut, être passé par le problème et l'état que peut ressentir de fragilité ou de solitude une personne âgée pour comprendre que ces technos-là, eux, ne les voient pas comme une surveillance déplacée, intrusive. Ils les voient vraiment comme quelque chose qui les rassure, qui va plutôt leur permettre de se sentir justement capables de rester chez elles avec ce stress en moins qui est de dire « s'il m'arrive quelque chose, comment je fais ?» Donc, je suis d'accord, il y a des problèmes d'éthique, il y a des problèmes de CNIL qu'on devra régler. Mais ça, il y a des textes qui protégeront les personnes si on sort des rails. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus voir ces solutions-là comme des solutions de surveillance. Ce n'est pas du Big Brother où on met les gens sous surveillance. En plus, on est là dans des données qui ne sont pas des données d'image. C'est pas, je ne filme pas, c'est pas, voilà, c'est pas la télé-réalité où j'ai la caméra 24 heures sur 24 dans le logement. Voilà. Est-ce que ça peut être dérangeant pour une personne, et projetons-nous dans l'idée de nos parents, par exemple, que quand ils sont plutôt en fragilité à domicile, on soit au courant si la nuit s'est bien passée ou pas. Et là, en l'occurrence, c'est le médecin qui réagira. Après, on peut toujours dire « j'en veux pas ». On peut toujours dire qu'on refuse ces technologies. Je veux dire, on mettra pas ça de force chez les gens. Hein. Mais moi, je pense que ces technos-là, justement, et on y veille, et on travaille avec le corps médical, et c'est pas nous, industriels, qui mettons en œuvre les solutions et qui exploitons les données. Hein. C'est souvent des entreprises qui sont soit des entreprises de services pour le domicile ou le corps médical en établissement. Ils savent très bien où est la limite de l'éthique. Hein. Mais vous savez, rentrer dans une chambre en EHPAD toutes les deux heures... pour aller voir ce qui se passe, c'est pas mieux. Hein. Si la personne est en train de se déshabiller ou si elle est aux toilettes, moi, je préfère un capteur de mouvement. Hein.
Autant on voit bien dans les institutions l'intérêt de centraliser un tel type de données et l'utilisation qu'on puisse en faire par l'équipe de management, par l'équipe médicale. À domicile, où on est la réflexion sur qui pourrait centraliser et utiliser ces données au-delà de la plateforme qui est un petit peu vague pour l'instant dont vous avez parlé. Est-ce qu'il y a une réflexion au niveau organisationnel, dans les ARS,
Si l'acteur est dans la salle, je veux bien qu'il nous réponde. Mais, non, mais effectivement, aujourd'hui, autour du domicile, il y a un certain nombre de questions qui se posent et qui restent posées. Le seul acteur bien défini aujourd'hui, c'est celui qui va recevoir l'alerte. Quand je mets alerte, là, on sait que ça va aller sur un plateau de téléassistance. Ça, c'est des métiers voilà, qui sont rodés aujourd'hui. Mais on est vraiment dans cette logique de porter secours et de l'urgence. Si après, c'est des données qui sont plus des données qui peuvent alimenter une réflexion, une aide au diagnostic, là, effectivement, on va plus s'adresser à la sphère médicale. Est-ce que ce sera du plateau médicalisé? Quelle relation entre ce plateau et... le médecin traitant, quel sera, on ne sait pas. Nous, on a un prototype qui tourne aujourd'hui en Limousin, qui s'appelle le projet ICAR avec des capteurs médicaux. Donc là, on n'est pas dans ce domaine-là, on est sur vraiment des capteurs, tensiomètres et autres à domicile. On est connecté à une équipe de gériatres qui elle-même est en relation avec le médecin traitant de la personne. Là, on est bien dans une boucle médicale. Les choses sont assez claires. Là où c'est délicat, c'est quand on est entre le médico-social et le médical. Effectivement, mais je crois que justement on est dans une filière qui est en train de se structurer, qui se met en place. Nous, on est là pour pousser les technologies. Si on attend que les organisations exploitantes des technos soient en place, il sera trop tard. Donc on pousse les technos, et puis après je pense qu'en parallèle il y a des organisations qui se mettent en place, il y a des opérateurs de services. Peut-être qu'encore une fois demain, on parle déjà de maisons de retraite à domicile, hein, vous avez, on travaille avec différents acteurs, mais vous en avez quelques-uns déjà issus un peu du monde de la téléassistance qui commencent à regarder ce sujet-là. Mais on est plus dans de la coordination médico-sociale, mais plus large que la téléassistance. Mais effectivement, l'organisation doit se mettre en place. Bon, ben, je vous remercie s'il n'y a plus de questions. Et voilà, et donc vous avez... la grande conférence inaugurale qui va démarrer dans 2 minutes, je crois. Merci.